Work in process, c'est une façon de se réinventer, de réinventer le monde du travail, de se dire qu'on peut bosser moins et mieux, qu'il n'y a pas de règles en la matière, qu'on peut développer son business en prenant soin de soi et que souvent, si on veut faire grandir l'un, il faut travailler sur l'autre. Ici, je vous partage des étapes, des méthodes, des outils, des réflexions, en bref, des process pour créer la croissance que vous voulez en respectant qui vous êtes. Salut au fait, moi c'est Marino Barré. J'adore parler de santé mentale, psychologie, neurosciences, organisation pour les entrepreneurs. J'aime parler de croissance saine, de transformation des entreprises pour un monde pro meilleur, plus joyeux et plus chaleureux. En bref, parler d'entrepreneuriat respectueux de qui vous êtes. Ça vous parle ? Alors abonnez-vous à Work in Process et surtout, écoutez bien l'épisode jusqu'au bout.
Bonjour à tous et bienvenue sur cet épisode invité spécial dans le cadre du podcaston. Alors le podcaston, si vous n'étiez pas là l'année dernière, je vous explique rapidement ce que c'est. C'est un événement un peu comme le Téléthon, mais version podcast. On est là avec les copains podcasteurs pour mettre en avant le tissu associatif français parce qu'il y a beaucoup de monde qui œuvre pour faire de très belles choses, mais ça, vous allez le découvrir dans l'épisode. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Robin Daubignard de l'association La Cravate Solidaire. Salut Robin, comment vas-tu ?
Salut Marine, ça va très bien et toi ?
Ben écoute, ça va très bien. Je suis heureuse que tu aies accepté mon invitation de faire cet épisode spécial podcaston parce que, en fait, La Cravate Solidaire, ça a une mission spécifique. Mais peut-être que tu peux nous expliquer un petit peu qui tu es au sein de cette association déjà.
Oui, complètement. Donc déjà, merci pour cette invitation. Pour présenter rapidement La Cravate Solidaire, il faut savoir qu'on est une association loi 1901 qui a été créée en 2012 suite au constat que s'habiller pour un entretien d'embauche n'était pas à la portée de tous, soit pour des raisons de précarité, soit pour des raisons aussi de codes verbaux et non-verbaux de l'entretien d'embauche. Et donc, La Cravate Solidaire s'est donné la mission d'accompagner ces personnes-là, donc éloignées de l'emploi ou non, dans leur parcours de réinsertion professionnelle à travers le don d'une tenue et l'accompagnement et la préparation à l'entretien d'embauche via la simulation.
Super. Et toi, du coup, à La Cravate Solidaire, qu'est-ce que tu fais concrètement ?
Moi, je suis en charge du sujet de la lutte contre les discriminations de façon très générale. Ça consiste en deux choses. La première, c'est faire évoluer le plaidoyer de notre association parce que, vous l'aurez compris, à travers notre action d'accompagnement des publics en insertion, on lutte contre les discriminations, on les arme pour affronter l'étape du recrutement. Mais on sensibilise également les entreprises, les recruteurs, les managers à la lutte contre les discriminations à travers des actions de sensibilisation en entreprise, mais aussi à travers des formations à la non-discrimination. Et donc, c'est là où est ma mission particulière, c'est développer des formations à la non-discrimination auprès des recruteurs et des managers.
Donc, vous l'aurez compris, dans cet épisode un peu spécial, on va lutter ensemble contre les discriminations à l'embauche. Mais on va voir un petit peu ce que c'est, parce que c'est peut-être un terme un peu flou pour vous. Alors, la première question que j'ai pour toi, Robin, c'est: qu'est-ce qu'une discrimination à l'embauche, avec des termes très simples, et quelles sont celles qui existent en France ?
Alors, c'est une bonne question, parce que c'est vrai que c'est un mot qu'on utilise beaucoup, mais on ne sait pas forcément le définir précisément. Donc, moi, celle que j'utilise le plus souvent, c'est la définition légale et juridique de la discrimination. C'est-à-dire que c'est un traitement inégal et défavorable entre deux personnes ou deux groupes de personnes, selon un critère prohibé par la loi et dans un domaine visé par la loi. Donc, pour prolonger la réponse, les critères visés par la loi, ils sont au nombre de 26 aujourd'hui reconnus par la loi, donc je ne pourrais pas tous te les citer, mais donc il y a ceux qu'on connaît bien évidemment la couleur de peau, l'origine, l'ethnie, le patronyme, le genre, le handicap, et il y a ceux qu'on connaît aussi un peu moins bien, les caractéristiques génétiques, la domiciliation bancaire, voilà, donc ça va vraiment couvrir tout un tas de situations, justement pour laisser libre interprétation au juge pour statuer sur tout un tas de particularités différentes selon les cas. Et les domaines visés par la loi, donc là, on va parler donc de l'accès à des biens ou des services publics, l'accès à des lieux publics également, l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la formation, globalement.
Waouh, je ne pensais pas qu'il y avait autant de différents types de discrimination à l'embauche. Donc, je pense que vous comme moi qui écoutez cet épisode, on va apprendre beaucoup de choses aujourd'hui. Est-ce que tu aurais dans ton chapeau des statistiques à nous partager justement sur quelle est la situation à l'heure actuelle en France ? Est-ce qu'elle a évolué depuis quelques années en bien, en mal ? Dis-nous tout.
Alors, j'ai quelques statistiques. Je m'attendais à cette question, donc j'en ai préparé. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très dur d'avoir des statistiques sur la discrimination parce que peu nombreuses sont les personnes qui portent des recours, justement parce qu'elles n'identifient pas forcément qu'elles sont victimes de discrimination, ou alors elles n'ont pas les voies de recours nécessaires, ou alors pas le temps ni le courage pour mener les recours, parce que ce n'est pas évident de mener des recours là. Le mieux, c'est d'être accompagné. Mais aujourd'hui, un chiffre que je peux te donner pour se faire une idée qui a été sorti par l'Observatoire des inégalités fin 2023, c'est qu'une personne sur cinq, âgée de 18 à 49 ans, dit avoir subi au moins une discrimination au cours des 5 dernières années. Donc ça touche vraiment tout un tas de personnes avec des profils très divers, et je pense qu'on peut tous être à la fois victimes et auteurs de discrimination. Donc c'est un sujet complètement universel pour chacun d'entre nous.
Une personne sur cinq, c'est énorme, sachant qu'il y a beaucoup de personnes, comme tu dis, qui ne se manifestent pas, finalement. Donc, on peut imaginer que ce chiffre est beaucoup plus gros que ça. Mais déjà, une sur cinq, officiellement, en tout cas, ça fait beaucoup. Concrètement, je pense qu'on s'en doute un peu, mais est-ce que tu peux nous expliquer quelles sont les conséquences quand on vit ou qu'on fait vivre une discrimination à l'embauche?
Effectivement, la première conséquence qu'on peut mettre en lumière, c'est qu'on a tendance à d'abord se remettre en cause soi-même, avant de remettre en cause les autres ou le contexte. Parce que lorsqu'on vit une discrimination, on ne va pas avoir le réflexe de se dire « je suis discriminé et donc je suis dans mon droit et je vais porter un recours ». On va se dire « quelles sont les compétences, quelles sont les qualités que je n'ai pas et qui m'ont mené à être traité défavorablement ». Donc la première conséquence de la discrimination lorsqu'on en est victime, c'est de se remettre en cause, de perdre confiance en soi et de réorienter son parcours ou ses ambitions, justement parce que des portes nous ont été fermées pour les mauvaises raisons. Et donc on va intégrer le risque discriminatoire, on va induire le fait que je vais être discriminé quelle que soit mon approche. Et donc je vais changer le domaine dans lequel je vais vouloir évoluer, je vais changer le salaire que je vais demander, je vais changer les ambitions que j'avais au départ, parce que j'ai été victime de discrimination. Voilà. C'est la première des conséquences, c'est la perte de confiance et la remise en question.
Ok. Est-ce que côté employeur, alors tu me dis parfois on fait vivre des discriminations, peut-être sans s'en rendre compte aussi, donc la première chose à faire c'est de se renseigner sur le sujet, mais est-ce qu'il y a des conséquences au niveau de l'entreprise justement quand on méconnaît ce sujet et que malgré soi, on fait justement ce type d'erreur?
Oui, complètement. Déjà, j'aimerais rassurer tout le monde. On est tous, et je pense qu'on a tous été ou on va tous être un jour auteur de discrimination dans notre vie. La majorité des fois, ce sera bien involontairement et sans haine, dans nos actes. Donc, ce n'est pas toujours un acte haineux. C'est pour ça qu'ils sont si nombreux. Et les conséquences que ça peut avoir pour une entreprise ou pour un recruteur, ça va être justement un manque d'innovation, moi je dirais en premier lieu, parce que si je recrute toujours les mêmes profils issus, donc ça peut être des mêmes écoles, mais du même milieu, je vais manquer d'innovation, je vais tout le temps avoir des idées qui vont se ressembler. Alors ça va être très agréable parce qu'on va travailler vite et on va souvent être d'accord, mais en termes d'innovation, on peut perdre de ce point de vue-là pour une entreprise. Donc, d'ailleurs, il a été prouvé que les discriminations avaient un coût économique pour les entreprises. Ensuite, en termes de bien-être au travail, ça va aussi impacter les équipes. Si un employeur a des actes de discrimination envers ses collaborateurs, ça va augmenter le turnover. Donc, forcément, ça va augmenter les dépenses qu'on va avoir dans les ressources humaines, dans le recrutement notamment. Et enfin, ça a été prouvé également que la productivité est impactée par le bien-être au travail des collaborateurs. Donc ça a également des conséquences pour les entreprises, aussi bien pour les candidats discriminés ou les collaborateurs discriminés.
Donc au final, les discriminations à l'embauche, ça touche toute l'entreprise dans sa globalité. Et cet épisode est bien finalement parce que j'espère que ça va être un vecteur de prise de conscience chez les personnes qui nous écoutent. D'ailleurs, n'hésitez pas à le partager autour de vous pour faire un maximum de bruit pour la cravate solidaire et pour les personnes qui justement ne savent pas ou n'osent pas faire remonter qu'elles vivent des discriminations. Ma prochaine question pour toi, Robin, c'est sur le terrain, parce qu'on va parler des formations tout à l'heure, mais sur le terrain, la cravate solidaire, qu'est-ce qu'elle fait? Comment elle agit pour justement aider les personnes qui sont en recherche d'emploi ou les employeurs?
Oui, complètement. La cravate solidaire, j'aimerais dire en introduction qu'on est présent sur 14 bassins d'emploi dans toute la France. Donc, on a vraiment une action qui est nationale. Et sur ces 14 bassins d'emploi, nos actions, elles vont se répartir en deux axes principaux. Le premier axe s'adresse auprès des personnes en recherche d'emploi. Le deuxième axe s'adresse auprès des recruteurs, employeurs et managers. Donc, au niveau des candidats, on va leur proposer un accompagnement vers l'emploi sur le chemin de réinsertion professionnelle. Il va être de différentes natures. L'accompagnement phare qu'on propose, on appelle ça l'atelier coup de pouce. Et donc, c'est un accompagnement individualisé sur lequel on accueille une personne pendant 2h30 à 3h. Donc, on les accueille les uns à la suite des autres sur une après-midi. Et donc, cette personne-là va se faire accompagner par deux binômes de bénévoles. Le premier va l'accompagner à choisir une tenue professionnelle dans notre dressing solidaire qui est composé de vêtements de seconde main, donc adaptés à un milieu professionnel. Et donc là, le but, ça va être pour la personne de choisir une tenue qui correspond à son ambition professionnelle et à sa morphologie et personnalité. Le but, c'est que la personne ne se sente pas déguisée parce que cette tenue-là, on va lui donner et elle va repartir avec. Et donc nous, on veut qu'elle la reporte dans son milieu professionnel, lors de son entretien d'embauche, mais même au-delà si jamais ça lui dit. Ensuite, une fois que le choix de la tenue est fait, on passe à une deuxième étape qui est la simulation d'entretien d'embauche avec un deuxième binôme de bénévoles coach RH. Et donc là, l'idée, c'est de dédramatiser, de démystifier cette étape de l'entretien de recrutement qui peut faire un peu peur parfois quand on ne l'a jamais vécu ou au contraire, quand on l'a vécu il y a 20 ans et qu'on se retrouve dans une situation de reconversion professionnelle ou de rupture de parcours et qu'on doit repasser un entretien d'embauche. On a parfois plus l'habitude, les codes ont changé aussi entre-temps. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir mettre en relation le candidat avec les bénévoles, de pouvoir poser toutes les questions qui lui passent par la tête pour que le jour J du réel entretien, il ait déjà l'impression d'en avoir vécu un. Et du coup, il l'aborde avec plus de détente et avec plus de confiance en soi. La fin de cet accompagnement se fait par la prise d'une photo professionnelle dans notre atelier. On a donc des studios photos semi-professionnels. Et donc là, on va prendre une photo un peu sérieuse pour le CV, le profil LinkedIn, si jamais la personne est partante, et une photo un peu plus marrante avec parfois des déguisements pour garder un souvenir sympa et un peu marrant de ce moment-là parce que, donc vous l'aurez compris, on sensibilise et on transmet les codes verbaux et non-verbaux de l'entretien d'embauche. Mais l'idée, c'est surtout de prendre ce moment-là comme un prétexte pour la reprise ou la prise de confiance en toi. Autour de cet accompagnement central, on a construit des accompagnements plus personnalisés, plus individualisés aux besoins des candidats qu'on rencontre. Donc, on a des activités de mentorat sur une durée de 6 semaines à 6 mois. On a des activités d'accompagnement en ligne, donc en visioconférence entre des bénévoles qui travaillent dans le secteur recherché par le candidat accompagné. Là, on va pouvoir travailler précisément sur le CV, sur la recherche d'emploi en ligne, sur la lettre de motivation en fonction du besoin du candidat. Donc, on va vraiment pouvoir s'adapter. Et donc proposer un accompagnement individualisé à chaque personne qu'on accompagne. Et aujourd'hui, ça représente plus de 10 000 personnes accompagnées sur l'année 2023. Ça, c'est pour l'action candidat.
Génial. Et ce que je trouve merveilleux avec la cravate solidaire, c'est que vraiment, il y a un accompagnement à 360. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer qu'il y a juste une préparation à l'entretien. Et rien que ça, déjà, c'est pas mal parce que répondre à la question « Où voyez-vous dans 5 ans ?» ou « Quelles sont vos qualités et vos défauts ?» c'est pas facile, clairement. Mais d'inclure tout ça dans une démarche de bien-être, de regain ou gain de confiance en soi et finalement de montrer à la personne qu'elle est peut-être plus capable que ce qu'elle se pensait en arrivant chez vous. Je trouve que vraiment, c'est une association du cœur, en fait, tout simplement.
Complètement. Et c'est toujours effectivement un peu émouvant de voir les personnes arriver chez nous et la posture qu'elles ont en arrivant et en repartant. Parce que rien que porter une tenue professionnelle, des fois, se voir dans le miroir avec une tenue qu'on ne porte pas tous les jours, c'est vrai que le regard sur soi-même change. Et j'aimerais également faire un hommage à toutes les associations avec lesquelles on travaille et qui nous orientent des personnes en recherche d'emploi. Parce que la Cravate Solidaire ne travaille pas toute seule dans le secteur de l'insertion professionnelle. On est en collaboration avec énormément d'acteurs, que ce soit d'ailleurs des acteurs privés, publics ou associatifs. Et notamment associatifs, donc voilà, des personnes qui vont être accompagnées par des associations sur des sujets qui interviennent avant la recherche d'emploi. Parce que pour rechercher un emploi, pour être en mesure de se réorienter professionnellement, de se réinsérer professionnellement, il faut avoir réglé ces problématiques de logement, de santé, ces problématiques plus générales. Et donc, il y a tout un travail qui est fait en amont de notre intervention par plein d'associations aussi extraordinaires sur tout le territoire français aussi. Donc, je trouve que c'est important de les citer.
Et tu as bien fait, je suppose que tout sera disponible sur le site, mais ça on en parlera plus tard dans l'épisode. Donc là, on a parlé des actions de terrain pour les personnes qui cherchent un emploi. Quelles sont les autres actions? Puisque tu nous en as parlé d'autres tout à l'heure.
Exactement, c'est le deuxième axe qu'on développe à la Cravate Solidaire. Pour donner un peu d'historique, de genèse, au bout de bientôt, donc là ça fait plus de 10 ans qu'on accompagne, mais l'idée est née au bout d'à peu près 8 ans d'accompagnement des candidats, on s'est rendu compte qu'on avait donc un impact direct sur les candidats accompagnés et un impact indirect sur les bénévoles qui venaient en atelier, qui étaient donc majoritairement des recruteurs et managers encore en activité et qui nous déclaraient être sensibilisés avoir changé de regard sur les publics accompagnés parce que c'était des personnes qu'elles ne croisaient pas dans leur quotidien. Donc nous, ça nous a fait très plaisir dans un premier temps et ensuite, ça nous a donné des idées, comme souvent à la cravate solidaire. Et on s'est dit qu'on pourrait aller plus loin, qu'on pourrait aller directement en entreprise, raconter justement des expériences de candidats qui vivent la discrimination au quotidien à des recruteurs, à des managers, pour les sensibiliser et pour les former à la non-discrimination. Donc, fort de cette idée-là et de cette conviction qu'on avait une légitimité pour parler de ce sujet en entreprise, on a créé un organisme de formation en fin 2021. Et notre première formation aujourd'hui est commercialisable, entre guillemets, donc une formation à la non-discrimination dans le parcours de recrutement qui s'appelle « Recruter sans discriminer, inclusif et engagé ». Donc, c'est une formation d'une journée qui est donnée par un organisme de formation certifié Calliope qui a pour but donc, de former les recruteurs et les managers au recrutement non discriminant, donc au cadre légal, au mécanisme inconscient qui nous amène à discriminer souvent malgré nous, comme je le disais tout à l'heure, et qui permettent aussi de mettre en pratique tous ces acquis théoriques pour savoir comment adapter donc, toute cette théorie sur son milieu de travail lors d'un recrutement ou lors d'un entretien avec les personnes que l'on peut manager au quotidien. Donc ça, c'est notre deuxième action aujourd'hui. Donc c'est une action qui est nouvelle à la cravate solidaire, mais dans laquelle on croit fort et qu'on est en train de développer avec d'autres formations qui arrivent. Et on a d'ailleurs là une année 2024 qui arrive, qui est assez challengeante. Notre objectif, c'est de former plusieurs centaines de recruteurs et de managers. Et à terme, notre ambition à la cravate solidaire, c'est de former tous les recruteurs de France pour faire évoluer en fait, directement en entreprise les pratiques de recrutement.
Bah écoute, c'est tout le mal ou tout le bien plutôt que je vous souhaite. Au niveau de la formation, justement, s'il y a des personnes qui sont intéressées, comment ça se passe ? Vu que c'est Calliope, je suppose qu'il y a un dossier à déposer, à activer peut-être son CPF. Explique-nous.
Alors nous, on n'est pas éligible encore au CPF, ça arrivera peut-être un jour. Mais aujourd'hui, donc une entreprise qui souhaiterait former son équipe de recrutement ou son équipe de manager à la non-discrimination, peut prendre contact avec la cravate solidaire, soit directement sur notre site internet, soit par mail ou via nos réseaux, et donc se renseigner, nous demander un devis, une date, un lieu d'intervention. Donc, ça, c'est tous les détails logistiques qui se règlent entre l'entreprise et notre organisme de formation. Et après, du fait de notre certification Calliope, on est éligible à certains remboursements des opérateurs de compétences, des OPCO. Et donc, à ce moment-là, ça va dépendre d'un OPCO à un autre. Les démarches vont vraiment différencier en fonction de la taille de l'entreprise, du secteur d'activité, de l'opérateur de compétences lui-même. Et donc, du coup, il peut y avoir une prise en charge en amont, en aval de la formation. Et ça peut être une prise en charge à 100% ou seulement d'une partie. Voilà, ça va dépendre des accords de branche également.
Ok, très clair. Maintenant, ma question, elle va être plus pratico-pratique, c'est-à-dire que pour les personnes qui nous écoutent, qui sont soit éventuellement chef d'entreprise, recruteur, manager, ou des personnes qui veulent se réorienter, chercher un emploi, est-ce que tu aurais, pour chacune de ces personnes, peut-être un conseil pratique que tu vois souvent chez la cravate solidaire, qui pourrait commencer déjà à les aider à avancer sur leur sujet ?
Ouais, moi j'en ai deux. J'ai deux premiers conseils qui viennent de mon expérience justement, parce que j'anime aussi des formations, donc de mon expérience d'observation des recruteurs et des managers que j'ai pu rencontrer. Donc, c'est des conseils qui sont assez simples, donc ils font partie des basiques du recrutement. Mais déjà, tout entrepreneur n'a pas forcément été formé au recrutement lorsque son équipe s'agrandit. Ça, c'est quelque chose dont on parle peu, mais au début, les premiers recrutements se font sans équipe RH spécifiée sur le sujet. Et ensuite, parce que même une équipe de recruteurs a une charge de travail qui va être parfois grande et que revenir aux basiques de temps en temps, ça peut justement servir à l'inclusion et la diversité en entreprise. Donc le premier conseil très technique que je donnerais, c'est de revenir à la grille d'observation des compétences. C'est-à-dire qu'avoir une grille de compétences définie par rapport au poste sur lequel je recrute, ça me permet d'augmenter mon objectivité. Et donc un candidat que je vais voir le matin à 9h du matin quand j'arrive au bureau, et un candidat que je vais voir à 17h quand je suis prêt à finir ma journée, je ne vais pas avoir la même approche de ce candidat-là. Soit parce que je suis plus en forme, soit parce que j'en ai pris plein la tête sur la journée de recrutement. Et donc, je vais forcément, mon objectivité va varier selon les différents moments de ma journée, voire de ma semaine, voire du mois, voire de l'année. Donc, avoir une grille d'observation des compétences standardisées par poste et par entretien, permet justement d'évaluer les candidats sur des critères communs. Et quand je reprendrai ces grilles-là pour faire le tri entre les candidats, je suis sûr d'avoir une objectivité renforcée, de pouvoir justifier aussi mon recrutement si jamais je suis mis en cause. C'est aussi des choses qui peuvent arriver. Des personnes qui s'estiment être victimes de discrimination et qui mettent en cause mon entreprise, eh bien moi, si je conserve les preuves, déjà si je crée les preuves de recrutement et si je les conserve par la suite, comme l'impose la loi, je peux aussi me dédouaner et prouver que mon recrutement a été objectif. Ça, c'est la première des choses. La seconde, c'est de diversifier son sourcing. Ça paraît tout bête, mais si je diffuse toujours mes offres d'emploi sur les mêmes canaux, je risque de recruter régulièrement les mêmes personnes. Si je diversifie mes canaux de diffusion de mes offres d'emploi, je vais forcément élargir mon vivier de candidats, élargir les compétences et les profils que je vais amener à moi.
Moi, il y a une astuce que je vais rajouter parce que je viens d'y penser. Tu parlais de diversifier ses canaux. Et il y en a un souvent qu'on sous-estime ou en tout cas qu'on exploite peut-être pas assez, c'est notre réseau. On a tous un réseau plus ou moins grand et ça vaut le coup de le travailler aussi pour pouvoir l'élargir, le diversifier. On rappelle que c'est le sujet de l'épisode d'aujourd'hui. Et puis, pour solliciter les personnes qui sont dans ce réseau parce que peut-être qu'elles, elles ont les talents que vous recherchez. Donc, favorisez la communication dans votre réseau et pensez encore une fois à le diversifier. Donc ça, c'était les conseils pratiques pour les recruteurs. Maintenant, on se met de l'autre côté de la table. Si on a envie de se réinsérer ou de chercher un emploi, quels sont tes un ou deux conseils que tu peux nous partager ?
Mon premier conseil, je parlais d'objectivité tout à l'heure, mais c'est d'aller à la cravate solidaire, la plus proche de chez soi, pour se faire accompagner par justement des bénévoles qui auront plein de bons conseils à donner. Plus sérieusement, même si c'est très sérieux, plus sérieusement, les conseils techniques que je pourrais donner à des candidats, c'est de bien étudier le secteur professionnel dans lequel je vais vouloir m'insérer. C'est-à-dire de bien observer les codes, parce qu'il y a des codes spécifiques en fonction des secteurs d'activité. Ça peut être du vocabulaire, ça peut être des tenues professionnelles aussi, en fonction des secteurs, elles vont changer. Et donc, moi, si je fais un peu un benchmarking, même sur LinkedIn, hein, si je regarde le profil des personnes qui occupent le poste que je vise, je vais pouvoir me faire une idée des attentes des recruteurs. Alors, l'idée, ce n'est pas de se formater, mais c'est de se préparer à ce qu'on va attendre de moi en entretien d'embauche. Je trouve que c'est une première idée. Et ensuite, ça va être aussi de faire une introspection, parce qu'on a tous des qualités, on a tous des compétences à mettre en valeur. Alors, elles sont pas forcément, elles correspondent pas forcément toutes aux standards du recrutement en France. Et d'ailleurs, on va pas tous avoir des diplômes équivalents. Mais par contre, je peux remplacer des diplômes par des expériences de vie, par des expériences professionnelles que j'ai accumulées avant. Et donc, du coup, ça va être très important de un peu faire un audit personnel de ces expériences, de son profil, pour le mettre en valeur conformément aux attentes du secteur que je vais vouloir rejoindre. Et ça se fait justement en dehors des critères généraux qu'on peut penser attendus sur un poste. Mais voilà, donc il y a des profils parfois très atypiques qui vont correspondre parfois mieux que des personnes qui ont un diplôme spécifique pour un secteur d'activité particulier.
Ce que je trouve qui est intéressant aussi, c'est quand tu parles d'aller s'auditer un peu soi-même son parcours, c'est que parfois on a des trous dans la raquette. Il y a pas des années qui se suivent en termes d'expérience parce que on a peut-être eu un problème de santé, on a fait un tour du monde, on a eu des enfants, bref, il y a plein de solutions possibles. Et moi, ce que je vous invite à faire quand vous allez faire cet exercice que Robin vous a proposé, c'est de voir en quoi ces expériences de vie vous permettent d'avoir des compétences ou des talents ou ont renforcé certains aspects de votre personnalité qui vont correspondre au travail ou en tout cas au secteur d'activité vers lequel vous voulez vous tourner. Parce qu'encore une fois, avoir un trou dans son CV, à mon sens, ce n'est pas péjoratif parce qu'on peut normalement tout expliquer.
Complètement. Je suis complètement d'accord. Après, c'est vrai qu'il y a des fois, on rencontre des personnes en atelier coup de pouce ou en accompagnement qui ont des trous sur leur CV pour des raisons qu'ils ne souhaitent pas forcément aborder en entretien. Ça peut être des incarcérations, ça peut être des passages à l'hôpital également. Et c'est vrai que ça peut être délicat d'aborder ces sujets-là, déjà dans un milieu professionnel et d'une manière générale face à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Donc c'est vrai qu'il faut aussi un peu se préparer à ce qu'on puisse se voir poser ces questions-là, aussi accepter des fois de dire à un recruteur que je ne souhaite pas aborder un sujet en particulier, ou alors détourner la conversation. Là, ça peut être aussi l'occasion de développer un petit peu des astuces, parce qu'un recruteur n'a pas le droit de poser toutes les questions, et un candidat a le droit de ne pas donner toutes les informations aussi. Donc c'est aussi quelque chose à prendre en compte en fonction du profil de la personne recrutée ou de l'entreprise, à la fois du côté du recruteur, d'accepter des fois de ne pas tout savoir, parce qu'il y a des choses qui doivent rester de l'ordre de l'intime, et du côté du candidat, de pouvoir aussi se sentir légitime à ne pas tout dire. Je pense que c'est important de le souligner.
Effectivement, parce qu'en tant que candidat, vous avez des droits aussi. C'est-à-dire que si un recruteur, on prend un dernier exemple, vous demande si vous êtes une femme, si vous avez des enfants ou si vous comptez en avoir, il n'a pas le droit de le demander. Donc, vous n'êtes pas tenu de répondre. Et comme tu le disais, il y a des tours de passe-passe ou des pirouettes, en tout cas, pour éviter ce genre de questions si c'est ce qui vous met mal à l'aise. En tout cas, vous pouvez retrouver tous ces conseils et encore plus sur le site de la Cravate Solidaire. Comme d'habitude, ça sera disponible dans la description de l'épisode. Où est-ce qu'on peut aussi retrouver l'association? Est-ce qu'il y a des réseaux sociaux? Est-ce qu'il y a d'autres médias?
Alors, on est présent donc, sur Facebook, Instagram, LinkedIn, bien évidemment. On réfléchit à arriver sur TikTok, mais ce n'est pas encore fait. Généralement, si vous tapez la Cravate Solidaire, vous allez tomber sur nous. Voilà, vous pouvez aussi taper la Cravate Solidaire suivie du nom d'une ville. Comme je vous l'ai dit, on est présent sur 14 bassins d'emploi, donc il y a des chances pour qu'on ne soit pas très loin de chez vous. On couvre de grands bassins d'emploi comme donc, Paris, Lille, Bordeaux, Marseille. On couvre aussi des bassins d'emploi plus intermédiaires comme Pau, Troyes, Metz, Le Mans. Et je vais m'arrêter là, sinon il va falloir que je cite les 14. Mais donc on est voilà, très présent sur les réseaux sociaux. On est également présent sur Internet via notre site. Et bien évidemment, donc, dans nos dressings solidaires dans ces 14 villes dont je vous parlais.
Super. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura ouvert les chakras, comme d'habitude, sur le sujet de la lutte contre les discriminations à l'embauche. Encore une fois, allez sur le site et les réseaux sociaux de la Cravate Solidaire si vous voulez aller creuser un peu plus le sujet, puisque malheureusement, on est sur un épisode de podcast, on ne peut pas parler toute la journée, même si c'est passionnant. Merci en tout cas, Robin, pour tout ce que tu as partagé. Ça a été un vrai plaisir de te recevoir.
Merci à beaucoup à toi aussi, Marine. Plaisir partagé.
Super. Et encore une fois, cet épisode a été fait dans le cadre du podcaston. Ce que je vous invite à faire, vous avez l'habitude, il y a un challenge à chaque épisode. Et le challenge, hormis d'aller voir les médias de la Cravate Solidaire, c'est si le cœur vous en dit, faites un don à l'association. Parce que c'est aussi comme ça que les associations en France fonctionnent. Encore une fois, tous les liens seront disponibles dans la description de l'épisode. On se retrouve très vite pour un autre épisode invité. L'épisode t'a plu ? Tant mieux, je suis contente. Maintenant, en plus de relever le challenge que je t'ai posé cette semaine, tu as trois options. Si tu veux aider à faire découvrir Work in Process autour de toi, tu peux le partager à ton réseau, mais tu peux aussi mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée et lui laisser un avis positif. Si tu as envie de discuter avec moi, on se retrouve sur Instagram, LinkedIn ou même dans la newsletter 1% qui te donne chaque semaine des actions concrètes pour bosser sur ton business. Et comme ça, tu pourras me partager directement tes ressentis sur le sujet du moment. Merci encore pour ton écoute. Je te dis à très vite dans un prochain épisode.